Bienvenue à cette nouvelle conférence de presse du festival. On va parler de nombreux spectacles aujourd'hui. On va commencer par Ubu Roi d'Alfred Jarry, mise en scène par Bernard Sobel dans la cour du lycée Saint-Joseph jusqu'au 16 juillet. Ça commence demain soir. Bernard Sobel, j'avais envie de commencer en vous demandant si avec Ubu Roi, on n'est pas soit trop tard, soit d'une certaine manière, puisque lui apparaissait à l'époque comme un précurseur, comme prémonitoire par rapport à l'évolution d'une société qui allait se mettre en place dans les premières années du siècle. Et en même temps, aujourd'hui, et c'est une phrase que j'ai retenue d'un texte de présentation de votre spectacle, la réalité dépasse la fiction, donc on serait déjà au-delà de ce que Jarry a pu vouloir dire ou montrer.
Oui, mais quand on dit la réalité dépasse la fiction, je pense que qu'avec Ubu Roi, je ne le pense qu'après après que Michel Raoul Davis et moi ayons travaillé dessus. On peut en parler maintenant, je ne pensais pas de choses avant. Mais disons que la réalité dont il est question dans ce genre de phrase, la réalité dépasse la fiction, je ne pense pas que ce soit l'objet réel d'Ubu. Naturellement, il y a comme un piège, parce qu'on peut parler, on peut dire le monde joue Ubu. On ne peut pas faire plus Ubu que, je ne sais pas, les chaussures d'un certain ministre des Affaires étrangères, ou quelqu'un qui refuse de signer les accords de Tokyo pour polluer le monde, ou quelqu'un qui sort de prison et redevient directeur d'un club sportif de football. Enfin bon, ça n'arrête pas. Mais je pense que ce n'est pas l'objet d'Ubu. On peut utiliser cette partition poétique pour parler de ça, mais je pense qu'on peut aussi, non pas l'utiliser, mais plutôt avoir une attitude assez humble vis-à-vis de ce texte qui est tout à fait étrange, que j'ai ressenti en l'abordant au tout départ comme un non-texte, un texte de lycéen, un texte potache, etc. Puis quand même, on peut se poser la question pourquoi un homme comme Mallarmé, par exemple, avait une grande admiration pour Jarry et pour ce texte. Donc, nous avons travaillé, les comédiens, et c'est très important parce que les comédiens nous ont accompagnés dans le déchiffrement de ce palimpseste étrange. J'ai l'impression que Ubu, c'est plutôt, je dirais, comme une petite pile atomique. Ça n'a l'air de rien, comme une pile atomique est une chose petite et peut déclencher énormément de choses. Mais je dirais que personnellement, je rattacherais plus, mais je ne le savais pas au départ non plus, Ubu, je dirais, au Roi Lear ou à Pascal.
Michel Raoul Davis, ça a été un processus de découverte, véritablement.
Enfin, pour moi, totalement. J'étais tout à fait atterrée quand Bernard m'a dit qu'on allait monter Ubu. Donc,
Atterré, pourquoi?
atterrée, oui, parce que je trouvais que c'était un texte d'abord tellement phallique, tellement régressif. Enfin, donc, j'étais je réagissais très, très mal. En plus, je voyais pas ce que des acteurs pouvaient en faire. Ça me paraissait être des personnages en deux dimensions. Enfin, bon.
Des
Et
caricatures?
puis, oui, puis finalement, puis on a été assez longtemps. Il y a les lectures politiques d'Ubu à cause de la réalité, des Milosevic, des Amin Dada. Enfin, bon, ce genre de choses, ça a été un obstacle qu'il a fallu surmonter. Puis je crois que s'il y a une lecture politique de la pièce, c'est que l'homme n'est pas bon et que c'est avec ça qu'il faut faire. Toutes nos illusions de perfectionnement de l'humanité. Bon, bah, la pièce les met en pièces. Et ce qui nous a été le plus utile, disons, dans le travail, ça a été plutôt les réflexions de Freud, dans Malaise et la civilisation. Voilà.
Et on a eu
Bernard Sobel.
un autre guide, parce que Jarry était le premier en France à traduire un très grand, un immense auteur et dramaturge allemand qui s'appelle Christian Grabe, qui était un contemporain de Büchner, un alcoolique aussi, ça a son importance, et qui est mort très jeune et qui a fondé une dramaturgie extrêmement importante. Et à travers le poème alcoolique et éthylique de Grabe, En tout cas, en ce qui me concerne personnellement, j'étais comme dans un paysage familier. Et s'il n'y avait pas eu les romantiques allemands tels que Kleist, avec par exemple La cruche cassée, Le juge Adam, ou s'il n'y avait pas eu, parce que si nous n'avions pas été quelque peu familiers de l'Élisabethin Marlowe, qui est l'Élisabethin que cite Jarry, à travers des auteurs que nous avions déjà montés, je pourrais même parler de Turlure d'une certaine façon, on a découvert qu'au fond, Ubu était un compagnon de voyage.
Oui, c'est peut-être le texte, de tous les textes qu'on a pu monter depuis le début de notre aventure, qui est quand même déjà très ancienne, c'est la première fois qu'on attaque un texte et qu'on découvre autant, en cours du travail. Habituellement, quand on monte un texte, on sait pourquoi on le choisit, pourquoi on l'aime. Là, finalement, il y avait un côté paradoxal dans ce choix et on a vraiment fait une découverte.
Mais alors, au fond,
Et
on n'a
grâce
toujours
aussi
pas
aux
compris.
acteurs, hein, vraiment,
On n'a
c'est vrai.
toujours pas compris pourquoi le choix au départ, parce qu'on a
Bon,
compris que finalement le choix était le bon,
il
mais...
était tout simple. Ça faisait pas mal d'années que nous n'étions pas en Avignon. Revenir en Avignon ne va pas de soi. Le phénomène Avignon sur le plan de la culture ne va pas de soi. Et y revenir, c'était avoir envie de dire merdre dans la cour d'honneur. Et donc à partir de ce moment-là, on a dit qu'il y avait un texte qui nous permettait de le faire, c'était Ubu. Et puis, il a fallu... Simplement comme ça, j'ai téléphoné à Denis, que nous connaissons et avec lequel nous avons déjà travaillé. Je lui ai dit, Ubu, ça te dit? Il a dit oui. Et il a dit oui parce que lui était un grand ami de Jarry. Et Denis est un lecteur de poètes. C'est un acteur poète, comme les Clévenot. Pas tous les acteurs sont des poètes, mais lui l'est très particulièrement. Alors après, disons, le mélange ou la distillation. Hein, de cet alcool un peu frelaté, c'est fait. Voilà. Alors, bien ou mal, ça c'est autre chose. On verra demain.
Dire merde à Avignon, à quoi?
Non,
À
c'est
cette.
pas dire merde à Avignon, c'est dire merde dans la cour d'honneur. C'est dire dans le fond, d'une certaine façon, comment dire, c'est mettre en avant le malaise que nous ressentons tous par rapport d'abord à l'utilisation qui est faite du phénomène culture. Je veux dire qu'on ne peut pas ne pas être mal à l'aise quand on voit de longues queues pour aller visiter un musée. On peut acheter, je ne sais pas, le mouchoir Toulouse-Lautrec, la carte postale, ceci, on peut presque ne pas voir, etc. Et donc, cette utilisation malsaine de la culture, comme ça, et je ne parle pas des pratiques artistiques, parce que la culture c'est une chose, les pratiques artistiques en est une autre, font que, effectivement, il y a toujours discussion là-dessus. Et nous sommes au centre de ce problème. Ce matin, j'ai chiné comme ça, parce que je ne dormais pas, et puis alors j'ai trouvé un petit texte que je voudrais vous lire comme ça, parce que je l'ai lu comme ça, mais ça m'a paru tout à fait étrange. Presque d'un contemporain, on pourrait dire, de Jarry, et qui avait les mêmes pères, je dirais, Rimbaud, la Bible, etc. Alors voilà, c'est un texte où il est dit, il n'y a pas de pire carrière que celle d'un écrivain qui veut vivre de sa plume. Vous voilà donc astreint à produire avec les yeux sur un patron. Le public est à lui, sur un patron, le public, et à lui donner non pas ce que vous aimez, mais ce qu'il aime, lui, et Dieu sait qu'il a le goût élevé et délicat. Ah, je ne sais, mais plutôt que la vie d'un X, il vaut mieux être sabotier. J'ai toujours dans la mémoire les figures tragiques d'un Villiers de l'Isle-Adam, d'un Verlaine, avec des restes de talent sur eux, comme les derniers poils d'une vieille fourrure mangée. Il n'est pas honorable d'essayer de vivre de son âme et de la vendre au peuple. Un peu, je dirais que c'est ce que nous permet de dire Jarry, parce que un poète met sa viande sur le plateau. Il paye très cher pour être en mesure d'écrire ce qu'il écrit. Ça coûte très cher. Ce sont des vies qui s'éteignent très vite. Un Büchner meurt à, je sais pas, 30 ans. Grabe a 25 ans, j'arrive très tôt. Et il paye très cher et il nous laisse des choses dont nous pouvons faire usage. Et bien voilà pourquoi, en fin de course, on peut dire que Jarry est utile aujourd'hui, non pas comme un polémiste ou comme un pamphlétaire sur des choses superficielles, mais je ne dirais pas comme Michel Raoul Davis que l'homme n'est pas l'homme est l'homme, et que la notion de bonté, de bien et de mal sont à mettre en question toujours, parce que si on suppose qu'il y a du bien, je pense que Jarry nous dit qu'il est préférable de partir de l'homme tel qu'il est tous les jours.
C'est-à-dire un loup pour l'homme ?
Non, pas un loup pour l'homme, je ne dirais pas.
Mais enfin, initialement, bon, s'il n'y a pas l'éducation.
Voilà, alors pour nous, ce qui avait de très important, c'est que Ubu, ça n'est ni le dictateur, ni quoi que ce soit. Pour nous, Ubu est avant tout, je crois pouvoir le dire, un poète. Parce qu'il y a le poème du Coquelicot qu'il n'aurait pas pu faire. C'est un homme d'imagination, un copain de Cyrano de Bergerac, de Don Quichotte, et ce n'est pas du tout... Et donc on est obligé de le suivre dans cette folie, plutôt que de le réduire à une marionnette, mais c'est parce qu'il est parti... C'est que là où Jarry est moderne, si on peut dire, mais je pense que tout poète est moderne s'il est un bon poète, c'est qu'il fait usage... De bouts, de fragments, de collages. On peut retrouver aussi bien du Pascal que du Shakespeare, que les journaux quotidiens, l'almanach, je ne sais pas comment dire. Voilà, l'almanach Vermont. On peut retrouver de tout. Et dans le fond, c'est comme une fleur séchée, Ubu, enfin le poème. Je dis bien le poème, mais comme une fleur séchée, et puis il s'agit de la mettre dans l'eau pour qu'elle puisse. S'épanouir. Est-ce que l'eau que nous avons choisie est une bonne eau ? Ça, c'est autre chose.
Monsieur Raoul Davis, cette eau, justement, elle ressemble à quoi ? Alors, sur la scène, il y a une main sculptée, blanche, énorme, sur laquelle se déplacent les comédiens.
Mais c'est la main, c'est l'artiste qui est là à travers cette main de plâtre. Il y a l'atelier de l'artiste qui est présent sur le plateau. Ça, c'est un peu la généalogie du spectacle qui est une trace de cette généalogie. C'est-à-dire que Ubu nous parle des pulsions, nous parle de ce qu'est l'homme initialement, avant la civilisation, avant la culture. Il veut tout, il dévore, il est l'ennemi des autres, il est totalement asocial. Et puis, néanmoins, c'est à travers la sublimation que ces pulsions se transforment et peuvent donner des œuvres, peuvent donner la révolte, peuvent donner... Il y a aussi l'international au début du spectacle. Apparemment, Ubu lutte contre ce chant. En réalité, il y a quelque chose de très profondément commun entre l'esprit qui a donné naissance à l'international et la figure d'Ubu, même si apparemment ils sont totalement antagonistes. C'est l'homme n'est pas un cloporte, donc ou bien il lutte continuellement contre les autres ou avec les autres, contre quelque chose pour vivre, pour s'épanouir, il revendique son espace vital.
Ce qui a été notre guide fondamental, c'est une toute petite phrase de Jarry essayant de présenter au public qui était Ubu, et il disait cette chose très simple: ce n'est pas tout à fait Monsieur Thiers, c'est un anarchiste qui n'est pas en mesure d'être l'anarchiste qu'il désire être parce qu'il est homme. Alors là, voilà, ça compte. Ce genre
aussi,
de petit.
Notre double ignoble.
Oui, d'accord, mais enfin, d'accord. Mais alors donc, je veux dire, quand il dit. Mais enfin, voilà, c'est ça.
Mais il y a une aventure, disons, peut-être, du personnage. Une des choses qu'on a découvertes au cours du travail, et grâce à Denis, qui a beaucoup insisté là-dessus, c'est qu'il y avait une évolution du personnage. Entre celui qui dit merde au tout début et celui qui fait le poème du Coquelicot, d'abord, son langage s'enrichit énormément. Il advient quelque chose dans cette espèce d'émancipation de la créature. Effectivement, il accède à quelque chose de différent.
Et aussi, il y a une chose qui est frappante pour nous, c'est c'est le l'infini auquel se confronte. Quand je disais qu'on pourrait parler du but comme de Pascal, c'est pas un paradoxe, parce que c'est la notion d'infini. Satisfaire les désirs, on n'y arrive jamais. À partir de là, on rejoint la notion de l'infini. Et je crois que c'est cette douleur et cette usine productive qui était chez Jarry, là, ça on le revoit dans tous ses textes. Voilà.
Bernard Sobel, Michel Raoul Davis, merci. Ubu Roy, c'est dans la cour du lycée Saint-Joseph jusqu'au 16 juillet à 22h. Alain Timard, bonjour. Vous mettez en scène au Théâtre des Halles jusqu'au 28 juillet à 17h au bord de la vie de Gao Jingjiang.
Xingjiang, prononcez donc à la française Xingjiang.
Xingjiang,
ou alors
où on dit Gao comme. On a pris un petit peu plus l'habitude de dire son
Gao,
nom
c'est,
depuis.
C'est son nom.
Depuis. Oui, puisqu'on met le nom avant le prénom dans la langue chinoise, merci. Gao donc a reçu le prix Nobel de littérature, on le sait, le dernier prix Nobel de littérature, et depuis son travail a connu une notoriété bien plus grande en France. Travail multiple, on va en parler. Il y a une rétrospective de son œuvre de peintre au Palais des Papes à Avignon. Vous avez choisi de monter cette pièce au bord de la vie, mais vous n'avez pas attendu pour ça qu'il ait le prix Nobel. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps.
Je suis heureux de vous l'entendre dire.
Et j'ai lu que vous aviez le manuscrit de ce texte depuis 1993 et que vous aviez le projet de monter cette pièce depuis donc très très longtemps.
Oui, le compagnonnage donc avec Gao Xingjiang, en ce qui me concerne, date des années 90. Effectivement, à la fois par la rencontre humaine, mais aussi la rencontre artistique autour de son œuvre et d'un personnage tout à fait singulier, tout à fait original et multiforme. Bon, c'est d'abord Gao Xingjiang, c'est d'abord un lettré chinois, et comme tous les lettrés chinois, il a à son arc plusieurs disciplines. Les disciplines de Gao sont à la fois l'écriture, la dramaturgie en tant que metteur en scène, mais également peintre.
Alors, pourquoi vous avez attendu si longtemps pour mettre en scène ce texte-là de Gao? C'est un texte qui, pour vous, ça posait des problèmes. C'est un texte assez inspiré dans les formes de la tradition chinoise.
Je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire. Parce que ce texte, Au bord de la vie, donc symboliquement, c'est le premier texte que j'ai monté de Gao en 93. D'ailleurs, dans le cadre du Festival In et avec le Théâtre du Rond-Point aussi, en coproduction avec le Théâtre du Rond-Point, dirigé à l'époque par Shirif Kaznada. Et donc c'était le premier texte que Gao avait écrit directement en français. Voilà, et symboliquement, cette année, on a voulu le remettre sur la sellette et le reprendre, le Nobel étant passé par là.
Alors le texte a été écrit en français, comme vous voulez le dire. À quoi a-t-on affaire, j'imagine, au texte d'un lettré chinois, comme vous l'avez défini tout à l'heure, mais en même temps qui... pour le coup écrit en français, vit en France, et donc on imagine assez influencé aussi désormais par cette culture, non seulement française, mais peut-être plus largement occidentale. Donc le texte est hybride de ce point de vue-là, enfin...
Non, je n'emploierai pas le mot d'hybride. Au contraire, je trouve que ce texte-là et toute la personnalité de Gao s'enrichit de sa double culture, c'est-à-dire de cette culture chinoise traditionnelle, effectivement, et d'un personnage qui est en quête de ces traditions. Pour ceux qui connaissent ses romans et qui ont lu La Montagne de l'âme, verront que il y a chez Gao toute une recherche des traditions dans cette Chine éternelle, d'une part. Mais il y a d'autre part chez Gao ce regard, cette curiosité vers l'autre et vers les autres et également vers l'Occident. Je crois que c'est cette double appartenance que l'on pourrait dans un premier temps regarder un petit peu comme une personnalité éclatée qui en font au contraire son unité et qui construisent son originalité.
Qu'est-ce qui, selon vous, quels sont les thèmes qui structurent le travail de Gao, au-delà, enfin, pas seulement son travail de dramaturge, mais peut-être au-delà, on trouve des choses en commun dans les œuvres plastiques qu'on peut voir, dans ses romans.
Oui, je crois que les personnes qui ont pu flâner ou se promener dans l'exposition qui se déroule actuellement dans la Grande Chapelle du Palais des Papes, pour ceux qui ont eu également la possibilité de lire ses essais ou ses romans, on voit directement la filiation. Et en ce qui me concerne, en tant que metteur en scène, mais aussi plasticien et scénographe, je vois bien, puisque je travaille de la même façon, je vois bien que pour Gao, il n'y a pas de différence entre le fait de peindre et le fait d'écrire.
Comment vous avez approché la scénographie précisément de cette pièce sur les aspects scénographiques que vous considérez comme plasticien dans votre travail?
Oui, en règle générale, je signe à chaque fois la scénographie de mes spectacles. Et pour moi, l'espace, la mise en image au sens fort du terme, en liaison et en dialogue avec l'écriture, me paraissent tout à fait fondamentales.
Bien, donc c'est Au bord de la vie, de Gao Xingjian, au Théâtre des Halles, mise en scène par Alain Timard, c'est jusqu'au 28 juillet à 17h.
Oui, je dois dire également, bien entendu, que il n'y a pas seulement cette mise en scène de Au bord de la vie, mais qu'il y a aussi jusqu'au 28 juillet un deuxième, un troisième, un quatrième texte de Gao, le deuxième étant dialogué, interloqué, mise en scène par Gao lui-même. Le troisième spectacle en création, c'est La raison d'être de la littérature, donc le discours que Gao a prononcé à l'occasion du Nobel en Suède, et qui est mise en scène par Serge Avedikian et moi-même. Le quatrième volet sera assuré par une traversée, un voyage à l'intérieur sous forme de lecture avec la complicité du comédien Marc-Henri Boisse, du roman de Gao, donc le livre d'un homme seul. L'ensemble constituant, entre guillemets, un hommage à Gao. Mais mieux vaut rendre un hommage à un écrivain vivant qu'à un écrivain mort.
Alain Timard, merci. On reste du côté des compagnies qui sont toute l'année à Avignon avec André Benedetto au Théâtre des Carmes. André Benedetto, vous mettez en scène Houle de Fond, et c'est un texte que vous signez vous-même, ainsi que la mise en scène. Et dans ce texte, en fait, vous abordez une question qu'on voit surgir de plus en plus dans les pages des quotidiens, souvent de façon assez effrayante, associée à une image. Je pense à celle des Chinois retrouvés dans un camion au sud de l'Angleterre, de ces clandestins chinois qui tentaient de franchir la Manche. Je pense encore à cette image qu'on n'a pas vue, mais qu'on a si bien imaginée de ces Africains morts de soif dans le Sahara récemment en essayant de traverser le désert pour rejoindre la Libye. En fait, au fond, ce sont ces clandestins, ou plutôt un clandestin que vous avez mis au centre de votre texte, un clandestin sur un bateau.
Voilà, un clandestin sur un porte-conteneur. Et je dois dire comment je suis arrivé à ça. Je comptais cette année faire un soir au cabaret, un soir sur sa terrasse avec Omar Khayyam. J'avais fait Jordan Le Bon l'année passée. Et j'ai tenté de faire des pièces avec Omar Khayyam, le grand poète persan. Et puis j'en ai écrit une, deux, trois, quatre. Je n'étais pas tellement satisfait. Et finalement, c'est sur le conseil d'un vieil ami iranien d'ailleurs que j'ai changé d'optique et je raconte la vie d'Omar Khayyam avec une danseuse. Donc ça, c'est le soir, le cabaret Omar Khayyam. Mais en travaillant sur Omar Khayyam, j'avais imaginé un type qui va à Nishapur sur le tombeau d'Omar Khayyam et qui en profite pour ramener des clandestins, pour emmerder le Nord, pour aider le Sud, quoi. Mais ça en est resté là. Mais c'est le terme clandestin tout d'un coup m'a rattaché à toute cette réalité dans laquelle nous sommes. Et je suis allé chercher sur la toile. Et sur la toile, j'ai trouvé ces histoires effrayantes que vous rappelez, mais il y en a encore des quantités. Il n'y a pas tellement longtemps, on a repêché 45 Marocains au large des côtes du Maroc qui avaient été jetés d'un bateau. Alors, dans les porte-conteneurs, il y a souvent un conteneur qui contient un clandestin ou deux. On pourrait vérifier s'il y a quelqu'un à bord des conteneurs, mais il faut 4 minutes par conteneur. Et s'il y a 3000 conteneurs, ça fait 12 000 minutes, ça fait 200 heures, ça fait une semaine. Et étant donné que le prix à quai coûte très très cher, des bateaux, on charge pendant qu'on décharge. Alors, on ne peut pas vérifier. Et lorsqu'un clandestin est trouvé à bord d'un bateau, en particulier en Amérique du Nord, au Canada, la compagnie doit payer extraordinairement cher. Et bientôt, ça va être la prison aussi. Donc, c'est une incitation, en quelque sorte, au meurtre. Alors, voilà le décor, c'est nous sommes l'Occident, nous sommes une forteresse très riche, nous sommes bien là entre nous, on s'amuse bien, c'est la joie quoi, permanente. Et puis, il y a des gens qui veulent survivre aussi, qui sont partout dans le monde, et qui ont l'audace, le courage de partir, pour dire quoi y faire ici, chercher du travail, c'est tout. Hein. Et moi, j'admire beaucoup ces gens qui ont cette capacité de se jeter dans l'étranger, de se jeter dans une aventure qui est très très difficile. Et voilà ce qui peut leur arriver, c'est ça. Alors, j'ai donc un porte-conteneur. Sur ce porte-conteneur, il y a un commandant. Je suis obligé de réduire le nombre de personnages, n'est-ce pas? Je peux pas mettre tout un équipage, et puis des passagers, et puis ouais, 12 clandestins, 58 à 12. Hein. Non, je préfère resserrer, avoir une situation dense, intense, avec des personnages forts. Donc j'ai un clandestin et un commandant de bord. Et puis le bateau, donc, se déplace. Sur la mer, la marchandise, les vents, les machines, comme il y a cette grande monotonie. Et puis, quelque part à proximité, dans les parages, là, il y a une île sur laquelle a été abandonnée une femme, parce qu'elle n'était pas assez docile à bord d'un yacht. On l'a jetée sur l'île, et puis débrouille-toi, avec un manuel de survie. Et donc, cette femme-là, elle attend qu'un bateau passe à proximité pour lui faire un signe. Et elle espère, et puis elle raconte sa vie, et puis elle imagine ce. Parce qu'elle reçoit aussi des cadavres sur cette île, elle reçoit des cadavres qui ont une balle dans la tête. Alors elle imagine que ce sont des clandestins qui ont été tués, parce qu'en général on les tue avant de les jeter à l'eau. Alors elle les enterre, et puis elle imagine un commandant clandestin, elle imagine ce qui est en train de se passer. Alors on les voit, il y a ce commandant, il y a ce clandestin, et le clandestin se préoccupe de qu'est-ce qui va lui arriver à l'arrivée, parce qu'il sait ce qui peut se passer. Alors il ressasse comme ça, il pense à son pays, sa femme, cette tension vers le nord. Le commandant lui aussi ressasse, parce qu'il a déjà eu un clandestin à bord, donc il risque d'en avoir un second. Alors il est dans une espèce de ressassement lui aussi, et puis il voit la marine telle qu'elle a été, telle qu'elle est devenue. Vous savez qu'en France il y a un pavillon de complaisance aussi, le second registre Kerguelen, qui permet d'embaucher 65% d'étrangers, de les payer très peu hein, en France. C'est pas Panama ou d'autres, ou Libéria ou autre. Alors il a vu toute cette dégradation, il broie du noir, et puis finalement il faut qu'il sorte prendre l'air, le clandestin veut aussi lui prendre l'air, et bon, ce qui doit arriver arrive, il se rencontre, et donc il va y avoir tension, dispute entre le sud et le nord, avec un type qui est persuadé de faire ce qu'il doit faire, l'autre il veut vivre, c'est le conflit dans lequel nous sommes en permanence, n'est-ce pas? Mais nous sommes nous aussi personnellement tous en conflit de cette manière à l'intérieur de nous-mêmes. Alors je ne dirais pas comme Claudel, je suis tous les personnages à la fois, hein. Mais nous, tous les gens, sont ces deux personnages. J'ai oublié de demander à Sobel si le texte qu'il a cité était de Claudel tout à l'heure. Il est parti.
Il est parti.
Parce que, oui, Claudel disait, vous allez faire le trottoir des lettres, je ne sais plus à qui. C'était plus ramassé, mais je crois que c'était sur les lettres. Alors nous sommes donc ces personnages-là, nous sommes l'abandonné sur une île. Qui ne se sent pas abandonné sur une île dans cette société de plus en plus, n'est-ce pas? Voilà, ces trois personnages sont là. Le commandant fout le clandestin à l'eau, il ne veut pas le tuer, il lui donne une chance. Le clandestin atterrit sur l'île, la joie de l'abandonné qui trouve ce bonhomme vivant, enfin, Dieu, merci Seigneur, c'est extraordinaire, quoi, elle embrasse de tous les côtés. Et puis le commandant, pris de remords, tourne en rond sur son bateau, si on peut dire, fait de l'eau large, sur le pont. Et finalement, il se jette à l'eau, quoi. Lui aussi, pour voir quoi, pour où il tombe, on ne sait pas très bien. Et il atterrit aussi sur l'île. Et tout se termine bien comme dans Molière. La femme recueille les deux hommes. Elle va organiser la vie pour eux trois, en attendant qu'un bateau passe. Voilà l'histoire.
Benedetto, merci. C'est Houle de Fond, donc c'est à...
Houle de Fond à 17h30.
17h, au théâtre des Carmes. Gérard Gélas, je ne sais pas, vous voulez rejoindre. Ben, peut-être, installez-vous à la place de... Changer de place.
Pas parler moi. Merde.
Monsieur Soleil. Gérard Gélas, au théâtre du Chêne Noir, jusqu'au 28 juillet à 17h, vous mettez en scène un livre de Michel Quint, Effroyable Jardin. Ce livre de Michel Quint, ça a été un des livres un peu surprise de cette année, le genre de livre qui s'invite tout d'un coup dans le monde des lettres sans que personne le remarque au début. C'est un livre qui a eu un succès considérable, publié aux éditions Joël Losfeld. C'est un petit texte. Et comment vous avez, avant peut-être de parler de votre travail de mise en scène, comment vous pourriez expliquer qu'un texte comme celui-là rencontre ce type d'écho, c'est-à-dire un écho qui dépasse très largement celui des livres qui sortent aujourd'hui?
Ça, c'est écoutez.
Vous avez des hypothèses?
Oui, sûrement, mais vraiment, ce ne sont que des hypothèses, parce que, à la limite, je ne peux parler que de ce que j'ai ressenti en le lisant. Moi, quand j'ai découvert ce texte qui m'a été offert par un ami, qui est Émile Hermic, j'ai été extrêmement ému, et comme beaucoup de gens, je sais que ça n'a rien d'original, je n'ai pas lâché le texte qui se lit en une demi-heure, trois quarts d'heure, avant d'être arrivé au mot fin. J'étais bouleversé, alors il y a plusieurs éléments. Je crois qu'il y a d'abord une écriture qui est complètement personnelle à Michel Quint. Michel Quint est un écrivain du nord de la France, il habite à Lille. Il utilise des mots du ch'ti, et il a des formules grammaticales qui vraiment lui sont propres, et auxquelles il tient beaucoup, et auxquelles nous tenons aussi beaucoup, parce que j'ai absolument pas traduit sa langue pour en faire du théâtre. C'est vraiment son texte que nous interprétons le soir avec Jean-Paul Faré. Donc une langue, la découverte d'un auteur. J'avais lu déjà des textes de Michel Quint en série noire, et un autre roman, mais là il y avait l'aboutissement de quelque chose et peut-être le début de quelque chose aussi pour cet auteur, en ce sens que il s'empare de récits qui sont des récits qui viennent du peuple, qui viennent des gens. Bon, le peuple maintenant ça fait plus très joli dans le panorama. Bon, il y en a qui disent les gens, puis il y a tous les autres qui les oublient, quoi. Bon. Mais c'est de gens simples, ce sont des mineurs, ce sont des résistants, mais des résistants qui n'en remettent pas. Ce sont des personnages de la mine, du nord, des banlieues, sans aucune, disons, faconde qui pourrait faire qu'ils soient intéressants. Et brusquement, ils deviennent extraordinairement intéressants, puisque il y a 140 000 personnes qui ont déjà acheté le livre de Michel Quint en France. Il est traduit dans 20 pays. Jacques Becker va en faire un film. Jean Becker, pardon. Et les Américains aussi. Et bon. C'est un phénomène mondial. Il est sorti en Italie il y a 15 jours, il est déjà 18e dans les ventes en Italie. C'est un exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe très certainement, c'est que le lecteur trouve là-dedans une humanité, avec un verbe, je le redis, original, une humanité qui le concerne, une histoire à hauteur d'être humain, quelque chose de à la fois compréhensible, je veux dire, ça va sans dire, mais de tellement chaleureux dans l'expression, et des personnages, c'est quand même un drame, hein, cette histoire, c'est pas une comédie, mais des personnages qui vivent leur drame avec une telle simplicité, que dans tout le maelstrom actuel et le bordel ambiant, ça effectivement, ça tranche. Il faut dire aussi que c'est vrai quand même que peut-être la littérature, comme le théâtre, ont été un petit peu accaparés durant quelques dizaines d'années par une intelligentsia extrêmement les textes, en faisant référence encore à d'autres textes, et cela jusqu'à l'infini. Et ça a donné quelquefois des romans ou des œuvres qui étaient un petit peu chiants. Et les gens en ont un peu marre aussi de ça. Je veux dire que je crois que l'intelligence est une chose qui est toujours souhaitée et attendue par l'ensemble des personnes qui vivent, qui respirent, qui bougent. Mais je crois que beaucoup de gens en ont assez de ceux qui confondent l'intelligence avec l'obscurantisme. L'obscurantisme étant tout simplement dénoncer des choses simples avec des mots complexes.
Alors pourquoi vous avez choisi de mettre en scène ce texte? Parce que tout simplement il vous a...
Il m'a bouleversé. J'avais depuis très longtemps l'idée de travailler avec Jean-Paul Faré. Faré aussi, on voulait faire un spectacle. On a failli travailler sur un texte de Jerry Weil, un écrivain pragois, disparu aujourd'hui, sur un thème assez proche d'ailleurs. Et puis ça s'est pas fait. Et là, je pensais que Jean-Paul Faré, non pas le Jean-Paul Faré qu'on connaît, en tout cas que j'admire, c'est-à-dire cette espèce de clown céleste qui invente ses propres spectacles, ses dramaturgies, ses textes, c'est un créateur complet, musicien en plus, pas ce Jean-Paul Faré que le public connaît et apprécie souvent, un immense acteur qui est Jean-Paul Faré, mais qui se met au service d'un texte et qui travaille avec un metteur en scène, débarrassé de tout son propre univers et qui fait sourdre de lui une richesse que beaucoup connaissent, hein, je n'ai rien découvert chez Jean-Paul Faré, mais qui nous atteint parce que elle n'est pas du tout dans l'image que nous avons de ce grand acteur. C'est tout à fait autre chose. Donc on avait ce désir de tenter quelque chose de cet ordre. Il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de gags, il n'y a pas... c'est un travail extrêmement rigoureux et au service du texte. Et on voulait, avec Jean-Paul, le servir, ce texte, et c'est pour cette raison-là que nous l'avons monté. D'une manière un peu tardive, parce que j'ai lu le roman en février. On s'est mis d'accord avec Faré pour le faire au mois de mars. Moi, je répétais à l'époque au Luxembourg, les affaires sont les affaires, j'ai créé là-bas, et j'ai travaillé avec mon décorateur à ce moment-là. Donc c'est un spectacle qui normalement n'aurait pas dû se faire. De cela, je suis aussi très heureux, parce que c'est vrai qu'on a tendance dans ce métier, mais ailleurs aussi, à tout programmer 2 ans, 3 ans, 4 ans à l'avance. Moi aussi, hein, j'en ai dans un système, j'y échappe pas. Hein. Mais quand on peut de temps en temps prendre des chemins buissonniers, croyez-moi, c'est tout à fait intéressant. Et là, on a eu la chance de tomber sur un auteur qui nous a fait totalement confiance. Alors il y a ça aussi, parce que vous imaginez qu'un certain nombre de personnes sont adressées à lui. Moi, quand on a discuté pour avoir les droits, il y avait Luc Besson qui les voulait. Michel Kerr a dit non à Besson. Bon, il n'y a aucun jugement à porter sur ce nom, mais il m'a donné les droits, et il a été proche de nous, et il est proche de nous, puisqu'il n'est pas loin d'ici, et ça aussi pour nous ça a été très important, parce que souvent on dit travailler avec un auteur vivant, etc., oh là là, c'est vraiment bon. Michel Kent est un véritable auteur, en ce sens que s'il vous offre, il vous donne son texte, il vous fait totalement confiance. Et je crois aussi que c'est sa fréquentation du théâtre, c'est quelqu'un qui connaît le théâtre sur le bout des doigts, c'est quelqu'un, je ne le savais pas, mais qui est professeur et qui enseigne le théâtre à Lille, c'est quelqu'un qui vit au Chêne Noir depuis plus de 30 ans, qui connaît très bien mon travail, et donc il m'a laissé complètement libre, et libre avec Faré. Et ça aussi, ça a été un moment heureux. Donc là, on est sur un travail théâtral qu'on offre au public avignonnais en ce moment, on ne pourra pas le reprendre avant un an, hein, on va jouer à Paris, je pense, assez longtemps, dans une année, puis une tournée nationale et internationale. Mais là, c'est une espèce de préface qu'on fait à Avignon. Et je dois le dire, dans un Avignon, si je peux me permettre de vous donner ce sentiment, dans un Avignon, et c'est pas l'âge qui me tombe sur les épaules, dans un Avignon que je commence à aimer. Contrairement à beaucoup, beaucoup de gens sont fatigués, Avignon, ceci, Avignon, cela. Bon, etc. Est-ce qu'il faut Arditi ou pas dans la cour d'honneur, etc., etc. Moi, je trouve qu'il faudrait regarder à deux fois, et je crois qu'il va falloir être intelligent là aussi, parce que moi, je commence à aimer Avignon, qui est ma ville, dans laquelle je travaille toute l'année, en dehors des tournées, des créations à l'extérieur. Mais Avignon l'été, je crois qu'il va falloir commencer vraiment à apprendre à l'aimer, parce que ça va devenir difficile, des lieux comme Avignon. Ça va devenir difficile parce qu'il y aura moins en moins de micros qui vont se tendre, il y a de moins en moins de télé qui vont venir, il y a de moins en moins d'espace, de toute façon, pour le théâtre, dans les pages des journaux, de la presse écrite, etc. Et il y a quand même une connerie rampante et galopante qui envahit tout et à toute allure. Et là, je crois qu'Avignon, c'est très modestement, hein, nous ne sommes que des artistes, des saltimbanques, in ou off, hein, pour moi, c'est vraiment aucune différence. Hein. Mais on est des saltimbanques, mais il y a des petites flammes qui sont là, quoi. Et elles sont extrêmement fragiles. Alors le Mistral ne les étendra pas, ces flammes. Mais par contre, le cynisme, la fatigue des gavés, de ceux qui ont tout, de ceux qui sont dans des 4, des 5 étoiles à Avignon, extrêmement bien défrayés et qui se permettent encore de dire qu'ils s'emmerdent, ça peut nous tuer. Et comme en plus, dans la société actuelle, il n'y a pas un véritable désir de théâtre, il y a danger. Donc je voulais vous dire simplement que cet été, bien, je suis content d'être ici. Et ça n'a pas été le cas chaque année pour moi qui suis avignonnais.
Gérard Gélas, merci. Donc, Effroyable Jardin, c'est au Théâtre du Chêne Noir jusqu'au 28 juillet à 17h. 16h.
16h, nous dit Jean-Paul Faré, qui est d'insistance.
À la Chartreuse, les 28e rencontres de la Chartreuse, on en parlera à différentes conférences de presse. On va commencer aujourd'hui avec trois spectacles de la compagnie Labyrinthe, trois spectacles mis en scène par Jean-Marc Bourg. Bonjour. Il s'agit de trois textes contemporains, Pas bouger d'Emmanuel Darley, L'entrée des musiciens de Michael Gluck et Cendres sur les mains de Laurent Godet. Alors pourquoi ces trois spectacles? Est-ce que pour vous, d'une manière ou d'une autre, ils forment un ensemble, une trilogie, ou vous préférez les aborder les uns à côté des autres sans nécessairement entendre les regrouper.
Oui, je préfère parler de chacun. Ensuite, l'occasion, la proposition de la chartreuse et une certaine parenté, familiarité entre ces écrivains fait qu'on peut les associer, et que ça a été le cas là, pour nous, alors qu'au départ le projet était de les créer tout au long de l'année, c'est en 3 temps. Ils ne sont pas sans parenté, ils ne sont pas pour autant réunis par dans une obligation dramaturgique.
Alors ils sont présentés à 3 horaires différents, mais chaque jour en fait, hein, 17h, 19h30 et 22h. Bon, on va prendre les spectacles un par un, je trouve que ce sera la meilleure des choses à faire quand même pour leur rendre leur autonomie. Vous avez travaillé avec la même équipe sur chacun malgré tout, avant qu'on rentre peut-être dans le détail.
Oui, le principe était de réunir un certain nombre d'acteurs et de gens, de scénographes, enfin musiciens, tout ça, et de les faire travailler sur l'ensemble. Comme les pièces n'ont pas une distribution analogue, les 5 acteurs, le musicien ne sont pas sur les 3, mais enfin bon, voilà. Il y avait un principe comme ça de mouvement qui devait englober les 3 pièces dans leur création.
Alors, Gérard Gérès parlait du fait, à propos de Michel Kahn, de travailler avec un auteur vivant. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est plutôt un avantage, plutôt un inconvénient d'avoir l'auteur qui est là pour dire son mot, éventuellement ou est-ce que vous préférez les tenir à distance? Comment vous procédez?
Non, depuis plusieurs années, on essaye de travailler avec les auteurs le plus possible. D'essayer même d'être à l'origine de l'écriture, c'est-à-dire de travailler sur des collaborations à très long terme, comme ça, qui ont lieu en plusieurs étapes. Alors on organise avec la complicité, l'amitié de ces auteurs, des laboratoires d'écriture où des textes commencent à naître, qu'on donne en lecture, ensuite ça rebondit, on en fait des chantiers, ensuite on passe aux créations, et tout ça est un compagnonnage en ce qui concerne les 3 auteurs de plusieurs années déjà. À un moment donné, on passe soit à une commande toute simple, voilà, pour l'année prochaine il faudrait une pièce, soit c'est l'aboutissement d'un parcours déjà entamé.
Alors on va peut-être rapidement, je vous donner l'occasion de présenter chacun de ces textes, de ces spectacles. Pas bouger d'Emmanuel Darley. Emmanuel Darley, on connaît un petit peu son travail, il a publié chez POA, il a publié chez Verdi aussi, quelqu'un qui écrit également des pièces, mais pas seulement, qui est un écrivain. Qu'est-ce que c'est Pas bouger?
Pas bouger, c'est après une première tentative d'écriture théâtrale qui était Badi Grégoire, Emmanuel Darley a voulu se risquer à un autre type d'écriture théâtrale. C'est-à-dire qu'il lui semblait que sa première écriture était encore empreinte de romanesque, de conventions romanesques, et dans Pas bouger, il a tenté de passer à une écriture beaucoup plus brève, beaucoup plus dense, beaucoup plus virevoltante, enfin, sautillante, moins lyrique d'une certaine manière, et il a inventé Pas bouger, ce qui est une sorte de fantaisie morale autour de la rencontre improbable d'un homme qui ne bouge jamais et d'un homme qui ne fait que marcher et qui se rencontre à plusieurs reprises.
Alors deuxième spectacle, L'entrée des musiciens de Michael Gluck. Je crois que vous avez travaillé assez étroitement là avec l'auteur qui est associé à votre...
Michael fait partie de la compagnie, il travaille surtout sur l'ensemble de tous les projets en participant aux répétitions et puis à tout le travail par ailleurs de la compagnie. Là, c'est la deuxième pièce que je monte de lui. Il s'agit d'une pièce mosaïque, une pièce qui est composée à l'origine, qui n'est pas finie, qui est composée de plus d'une centaine de scènes. C'est une sorte de fresque éclatée d'un paysage de guerre. À partir de là, j'ai eu envie, moi, de récolter plusieurs dizaines de scènes, mais malgré tout une part très réduite de l'ensemble de son écriture, et puis de composer une nouvelle pièce à partir de ce matériau-là. Donc on a travaillé avec un matériau d'une 40aine de scènes pour finir à une 20aine aujourd'hui, qui forme le spectacle, en gardant la notion d'éparpillement, d'éclatement, de fragmentation du monde et de la parole. Ce sont des voix dans la nuit de la guerre, et le spectacle a tenté de rester fidèle, en tout cas, de rendre possible un moment d'une heure fait que de brisures, que d'éclats, que de choses qui ne se raccordent pas entre elles.
à ce que vous dites à propos de ce texte de Michael Gluck me fait penser à l'univers du troisième auteur sur lequel vous avez travaillé, Laurent Godet, puisque des voix dans la nuit de la guerre, ces éclats, ça fait penser à Cri, qui est un roman que Laurent Godet a publié voici quelques mois aux éditions Actes Sud, un premier roman assez remarqué, dans lequel il mettait en scène des soldats de la guerre 14 dans des tranchées, une sorte de polyphonie de poilus en quelque sorte, de soldats. Là aussi, Cendre sur les mains, Laurent Godet, c'est un texte encore une fois sur la guerre et un texte sur le morcellement qui résulte de ces guerres.
L'ensemble de l'écriture de l'œuvre de Laurent travaille sur la hantise des guerres d'aujourd'hui. Là, peu importe les guerres que l'on peut trouver au travers de la pièce, elles sont en tout cas très contemporaines, quelle que soit leur géographie. Il s'agit d'un espace, je ne peux pas dire vraiment emblématique, en tout cas emblématique, qui est à mi-chemin entre une route où l'on décharge des cadavres et une forêt où l'on va couper les arbres pour entretenir le bûcher. Et les personnages qui sont au milieu sont des personnages de d'épuration, mais qui ne sont que des petits ouvriers. Et parmi les cadavres, un a survécu, une femme, une rescapée. Et elle va rester avec eux. C'est à partir de cette fable minimale qu'il a écrit « Cendre sur les mains ».
Un texte inspiré, je pense, de la situation rwandaise notamment.
Oui, on peut penser à la Bosnie sur certains aspects, on peut penser à beaucoup de choses. Oui.
Jean-Marc Bourg, merci. C'est donc trois spectacles de la compagnie Labyrinthe que vous avez mis en scène et qui sont présentés au Tinel de la Chartreuse jusqu'au 14 juillet à 17, 19h30 et 22h. Enfin, on termine par un lièvre qui a des ailes est un autre animal. Michel Jacquelin et Odile Darbelay, c'est un ensemble, je ne sais pas trop comment dire, trois spectacles, des conférences, une exposition. En fait, peut-être, on va partir de la définition que vous donnez vous-même de votre travail, et que je vais vous demander d'expliciter. Une pièce d'art contemporain en tranche non euclidienne, mais symboliquement authentique. Michel Jacquelin.
Oui, c'est-à-dire que la pièce d'art contemporain, c'est parce qu'on a la volonté de faire à la fois du théâtre et des arts plastiques. Donc on joue plus ou moins finement sur les mots. Donc voilà pour la pièce, puisque c'est utilisé à la fois dans l'espace muséal et à la fois dans l'espace théâtral, et puis donc l'art contemporain. En tranche non euclidienne, c'est parce que nos tranches ne sont pas très droites et ne sont pas très planes. Et en tranche non euclidienne, mais symboliquement authentique, ça c'est une référence à Jarry. Puisque je crois que c'est une phrase qui est dans un de ses textes, je ne sais plus si c'est dans Ubu ou... dans les gestes d'opinion du docteur Faustrol.
Alors on a affaire à un ensemble assez complexe, Odile Darbelay, un dispositif qui est mis en place dans l'église des Célestins avec ces trois spectacles, mais enfin et puis des conférences que vous différenciez des spectacles, mais puis une exposition. Donc il y a des choses qui ont déjà été montrées, mais là vous avez l'occasion de montrer toutes les facettes de ce projet.
Ce qui fait la totalité, c'est un tous, ce sont les personnages, c'est-à-dire à partir du personnage de Duchamp, qui est le faux-frère de Marcel Duchamp.
Qui était un charcutier.
Qui à l'origine était charcutier et qui un beau jour décide de passer du lard à l'art et de concurrencer Marcel sur le terrain de l'art.
Il va au-delà du ready-made, il fait du living ready-made.
Oui, il veut toujours faire mieux. Aller plus loin, donc comme Marcel Duchamp a fait le ready-made, c'est-à-dire on prend un objet, on le signe, ça devient une œuvre d'art. Lui, il fait le living ready-made, c'est-à-dire il prend une personne qui devient œuvre d'art.
Et lui, donc, au lieu de rosser la vie, fait vert, c'est la conque, c'est le titre d'un des.
Oui, c'est-à-dire que le problème de Duchamp, c'est qu'il n'est pas toujours très malin. Donc, voulant faire mieux, il fait souvent à côté. Comme. Marcel Duchamp a créé le personnage R rose, c'est la vie, avec deux R. Lui fait V vert, c'est la con, parce qu'il n'a pas compris le jeu de mots. Voilà.
À tout le travail.
C'est à partir de ce personnage qu'on a tiré des fils, créé les autres, le professeur Zellenborg, l'artiste Apophthegm, Anska, et on a réussi, enfin il y a encore des trous, on a tissé une sorte de toile.
Construire un univers au fond.
Tout un univers, voilà, qui relie. C'est-à-dire les personnages se retrouvent d'un spectacle à l'autre et ces différentes formes mettent à chaque fois une préoccupation, un de ces personnages au premier plan, mais les autres gravitent autour.
Alors, on pourrait mal interpréter votre démarche par rapport à l'art contemporain, parce que on entend beaucoup de commentaires un peu jadistes, un peu démagogues sur l'art contemporain, de critiques, notamment de ces installations, de l'art contemporain, sous-entendu de l'art après Duchamp, bien évidemment. Vous, c'est pas qu'on mette les choses clairement au point, c'est pas du tout ça, c'est un travail de commentaire de l'histoire de l'art qui est à la fois et toujours en même temps très sérieux et très déconnant.
Assez. Non mais c'est, je pense qu'il y a il y a trois grands papas à l'art contemporain, ça va peut-être faire grincer les dents, mais il y a Duchamp, Matisse, Picasso. Et en fait, on peut, bon, c'est un peu hâtif, il y a bien entendu des exceptions, mais on peut à peu près classer ou ranger tous les descendants, tous les artistes contemporains comme étant des descendants de ces trois bons hommes. Et il y en a beaucoup qui ne revendiquent pas du tout, enfin qui revendiquent pas ça ou qui s'en aperçoivent pas. Et nous, en débutant, en ayant conscience de débuter un travail artistique, puisque ça nous amuse de nous mettre nous-mêmes en scène dans le travail, on s'est dit que c'était bien de commencer avec Duchamp, parce que c'est celui qui a décidé de quitter l'art rétinien, et que ça nous plaisait comme histoire, et puis qu'il y avait eu bon, une descendance. Donc on a affirmé assez violemment ça. Alors après, par rapport à l'art contemporain, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un point de vue critique sur l'art contemporain sans tomber dans le poujadisme, mais qu'à mon avis c'est quand même nécessaire, parce que je ne pense pas qu'il suffise qu'une œuvre soit contemporaine pour être bonne, et donc qu'il faut se méfier du label contemporain comme étant un label qui a priori est un label de qualité. Donc nous on fait de l'art contemporain, donc on assume tout à fait d'être dans l'art contemporain, comme on le met dans le sous-titre du livre. Mais on veut avoir un point de vue critique par rapport à ce qui peut être produit dans l'art contemporain. Et il y a des artistes d'art contemporain qu'on aime beaucoup, il y a des gens qu'on estime énormément, puis il y en a d'autres qu'on estime moins, donc on peut se permettre de se moquer un peu des fois.
Et finalement, c'est une démarche, la vôtre, qu'on retrouve quand même, cette démarche réflexive et critique par rapport au milieu de l'art, qu'on retrouve assez communément dans l'art contemporain, peut-être beaucoup moins dans le monde du spectacle vivant et du théâtre. Moi je pense, enfin je sais pas, je pense à un travail de Vautour par exemple, la collection de Vautour qui a inventé...
On a usé nos culottes sur les mêmes bancs.
Ah ben vous voyez, je ne savais pas, mais c'est fait immédiatement penser à de Vautour, ça fait penser éventuellement à certains projets de Hans Hacke aussi. Mm. Bon, ces gens qui ont conscience du milieu dans lequel ils travaillent, qui le prennent en compte pour...
C'est-à-dire que nous, la différence par exemple avec le travail de Paul de Vautour, qui est de constituer une collection et de se présenter comme un collectionneur et non pas seulement comme un artiste, et d'inventer ses artistes, la différence, c'est que souvent, le point faible de son travail, c'est que ça s'adresse uniquement à un public de gens qui sont déjà avertis, qui connaissent déjà.
Le spectacle dans les galeries.
Voilà, et c'est un jeu entre soi. Alors que nous, on a quand même la volonté de sortir du jeu entre soi pour s'ouvrir à un public qui n'est pas forcément un public de l'art contemporain. Donc on pose toujours nos valises, c'est-à-dire qu'on dit toujours, on donne les clés ou les biscuits pour que les gens puissent comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de Duchamp pour apprécier, on pense, Weber c'est Lacon ou la chambre du professeur Zellenborg. C'est-à-dire qu'il y a, on a un souci non pas pédagogique, mais pas complètement pédagogique, parce que c'est pas scolaire, mais on a un souci de donner les moyens de comprendre et que les choses soient stratifiées ou feuilletées de façon à ce que des gens qui ont pas forcément la même culture, les mêmes références, les mêmes centres d'intérêt, sans aucun jugement de valeur, puissent s'y retrouver à différents endroits.
Et le fait que ce soit des personnages fictifs, que ce soit une fiction, finalement ça nous oblige de donner les clés, qu'on s'y retrouve. Enfin, ce jeu entre fiction et réalité, ça fait une succession de rebonds, on découvre des choses, on pose des énigmes, on les résout, on en trouve d'autres, ça fait une espèce de parcours avec sans arrêt... on se demande qu'est-ce qui va arriver encore et qu'est-ce qui va se passer.
Vous devez avoir quelques difficultés parce que on a du mal peut-être, ou les institutions doivent avoir du mal à catégoriser votre travail, c'est toujours le problème. C'est entre, je dis, ça fait plus référence ou penser à des démarches artistiques qui sont dans le monde de l'art contemporain et vous me disiez qu'ils ont tendance à rester dans cet univers, donc il n'est pas facile d'élargir. Il y a un autre type de travail auquel ça m'a fait penser, à cause des conférences, peut-être aussi à cause du fonds documentaire photographique trouvé, c'est celui de Olry et Mireille sur Nous avons fait un bon voyage, mais qui était un spectacle sous forme de conférence qu'on a pu voir l'année dernière notamment.
C'est-à-dire la difficulté de l'art contemporain plastique, on va dire, puisque je vois pourquoi le théâtre n'est pas de l'art contemporain de son côté aussi, c'est qu'il n'existe pas ou très peu de moyens de production des œuvres. C'est-à-dire que traditionnellement, dans le milieu de l'art contemporain, l'artiste produit son œuvre. Ce qui, quand on commence à travailler avec du vivant, pose immédiatement des problèmes aigus de production d'argent et de... Donc il y a certains lieux comme le Crédac à Ivry qui commencent à proposer des séances, à changer un peu les choses. Mais c'est vrai que tout ce qui est performance, etc., repose quand même sur une base, pour ce qui est des galeries par exemple, sur une base du volontariat. C'est-à-dire on n'est pas payé pour faire les choses, ce qui est payé c'est la communication, etc. Alors c'est vrai que le milieu du théâtre fonctionne d'une façon qui est quand même tout à fait différente et qui a l'habitude de ça, et qui a le professionnalisme de ça, y compris dans l'accueil du public, dans la gestion d'une salle, etc. Donc c'est vrai que ça intéresse, il y a cet aspect-là qui est évident dans le glissement ou dans le passage au théâtre. L'autre aspect qui est moins matériel, c'est que le théâtre c'est quand même un lieu qui travaille sur la réalité et la fiction. Et que là, tout d'un coup, comme la photographie, puisque moi, à l'origine, je suis photographe, et qu'il y a des tas de rapports, bon, c'est Roland Barthes qui l'a dit, hein, entre la photographie et le théâtre, et que ces rapports-là sont intéressants, finalement, comme point de départ du travail aussi. C'est-à-dire que on est dans une relation entre des éléments plastiques dans la forme et des éléments théâtraux dans la forme aussi, et comment ces choses vont se relier.
Alors, Odile Darvelet, on peut commencer n'importe où, n'importe comment, l'abord de votre pièce d'art contemporain, parce qu'il y a, donc je l'ai dit, il y a une exposition qui s'appelle Les bas morceaux de l'Odalisque, donc ça c'est une rétrospective de Duchamp. Mmh. Il y a des conférences sur Hanska par Duchamp, Mona Uri et Ea Povtegme, et puis il y a trois spectacles qui sont Vers et Lacon, la boîte noire de 1969, La chambre du professeur Swedenborg, et puis dispositif expérimental pour une visite chez les Aza. Je réduis les textes, les titres parce qu'ils sont plus longs que ça encore. On peut commencer n'importe où, il y a une notion d'itinéraire.
Non, chaque forme est très différente et est une... C'est une chose en soi, non?
Après, de toute façon, les bas morceaux de l'Odalisque, à un moment ou à un autre, c'est visible, puisque c'est en entrée libre toute la journée, donc on peut venir voir avant le spectacle, après les spectacles. Après, il n'y a pas d'ordre. Nous, effectivement, il y a eu une chronologie au moment du travail, quand on a fait les choses, mais c'est un peu l'idée du triptyque. C'est comme si, on sait que traditionnellement, dans une peinture, dans le triptyque, c'est le panneau central qu'on regarde d'abord. Donc là, c'est un triptyque de théâtre. Alors, est-ce que c'est le panneau central qu'on regarde d'abord? Je pense pas forcément. Donc, il y a toute l'ambiguïté du rapport entre le triptyque art plastique et le triptyque théâtral.
Alors, un lièvre qui a des ailes est un autre animal. C'est donc cet ensemble de spectacles, d'expositions, de conférences. Je ne donne pas les détails des horaires parce que c'est complexe. Mais en tous les cas, c'est à l'église des Célestins.
Nous faisons du off dans les lignes. C'est-à-dire qu'il y a une visite guidée qui n'est pas annoncée, mais que nous essayons de mettre en place.
D'accord, donc c'est à l'église des Célestins, c'est jusqu'au 27 juillet. Oui. Merci.